Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce nouveau podcast du site edencast.fr consacré à GNU Linux et au logiciel libre.
L'accessibilité du logiciel libre, une émission animée par Jean-Philippe et réalisée par Kevin sur edencast.fr.
On a commencé à introduire un petit peu des concepts hein, sur les environnements graphiques, sur le bureau maté. Et bien aujourd'hui, on va continuer dans cette voie. C'est encore un peu théorique, mais rassurez-vous, une fois qu'on aura les éléments, on va pouvoir mettre des mots sur des choses et donc commencer à pratiquer. Pour l'instant, évidemment, il faut d'abord prendre le temps de comprendre ce qu'on a devant nous. Au sommaire aujourd'hui, bah écoutez, on va aborder de nouveau les icônes, mais très vite, juste à titre de rappel pour ceux qui auraient oublié depuis la dernière fois. Et puis les différents types de fenêtres ainsi que les menus. Voilà, on va un peu voir ce que c'est, en quoi ça consiste, comment on s'y déplace, etc., etc. Alors les icônes, c'est ce qu'on disait, ce sont des images. Des images qui représentent les composants de votre système et qui vous permettent du coup d'interagir avec l'ordinateur. Alors pour interagir, il y a deux manières de faire. Il y a la souris évidemment, il suffit de déplacer le pointeur et de le mettre sur l'icône et ensuite de double-cliquer. Et ça permet du coup de dire à l'ordinateur que c'est cette icône-là qu'on veut choisir. Et au clavier, bah, on peut se déplacer avec les flèches de direction ou bien la touche tabulation. Et quand on arrive du coup sur ce qui nous intéresse, eh bien on tape entrée. Faut jamais oublier de taper entrée, hein, parce qu'il y a des gens qui, quand ils entendent le nom de l'icône, ils disent « bah voilà, j'y suis ». Oui d'accord, mais si vous ne faites pas entrée, ça ne sert à rien. Vous y êtes, certes, comme quand on est devant un panneau, mais tant qu'on n'a pas appuyé sur l'accélérateur pour aller dans le sens qu'on veut, eh bien on reste sur place. Hein, donc ça c'est vraiment important. Alors les icônes, bah, elles sont sur le bureau, comme on l'a vu la dernière fois, mais elles peuvent être aussi dans des fenêtres. Hein. Elles occupent tout simplement toute la superficie, en général d'un petit carré qui fait à peu près 1 ou 2 cm et ça se présente sous la forme du coup de, bah, d'un dessin en fait. Hein. Par exemple, si on regarde l'icône pour l'application de Draw c'est LibreOffice, c'est pour faire des formules mathématiques par exemple, et ben, c'est une feuille hein, par exemple où on retrouve des formes géométriques un peu comme on peut faire en mathématiques. Si on prend d'autres icônes comme celle du traitement de texte, bah, bizarrement, pour LibreOffice Writer, par exemple, on va trouver quoi ? Bah, une feuille, tout simplement. Et dans cette feuille, qu'est-ce qu'on voit ? Un paragraphe. Donc les voyants, pour eux, c'est assez évident. Et puis quand les icônes, elles sont disposées sur le bureau, bah, on a leur nom, bien sûr, qui, juste en dessous, apparaît. Hein. Et puis, évidemment, en haut à droite de chaque icône, on a un petit indicateur coloré, d'accord, qui permet de savoir que bah, on est sur un élément particulier de l'écran et que cet élément doit attirer l'attention du regard. Et évidemment, ça c'est pour les malvoyants ou les non-voyants, ou les voyants, pardon, puisque les non-voyants, bah, eux, a priori, vont surtout se repérer sur ce que leur dit la synthèse vocale. Donc voilà un petit peu pour ce bref rappel. Et le dernier, je vous rassure, sur les icônes. On va passer maintenant à un concept un petit peu plus subtil, mais non moins passionnant, qui s'appelle les fenêtres. Alors la notion de fenêtre, c'est quelque chose de très très important sur Maté. Parce que à tous les niveaux, sauf peut-être sur le bureau et encore, les informations sont transmises ou les pages sont affichées à l'intérieur de fenêtres. C'est en fait ce qui encadre tout ce qui est affiché par l'ordinateur. Alors une fenêtre, du coup, c'est quoi ? Bah, c'est une zone, hein, tout simplement, rectangulaire, délimitée par une bordure, tout simplement. Et Maté permet, bah, évidemment, comme Windows, comme n'importe quel système aujourd'hui, d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps et de passer de l'une à l'autre. Chaque fenêtre, elle contient une application ou un document différent, voire même des morceaux de messages, des morceaux de choses. C'est ça qu'on va voir pendant cette petite partie. Les fenêtres, évidemment, peuvent être juxtaposées, c'est-à-dire côte à côte, ou superposées, c'est-à-dire les unes sur les autres, et on peut du coup comme ça bah, comparer par exemple, si on devait parler des fenêtres superposées, bah, c'est une pile de documents en fait, hein. Sachant que la fenêtre active, c'est-à-dire la fenêtre où on est en train de pouvoir travailler, bah, elle est toujours au-dessus de la pile. Bah, c'est exactement le même concept là, avec les fenêtres d'un bureau maté. Alors la dimension des fenêtres, évidemment, elle peut varier, bien sûr, puisqu'elles peuvent occuper une partie de la surface de l'écran, ou tout l'écran de manière complète. Alors, nous, on va préférer, en tant que malvoyant, typiquement, augmenter la fenêtre à sa taille maximum. Parce qu'au moins, si on doit commencer à faire du zoom ou des choses comme ça, ce sera beaucoup plus simple et il y aura beaucoup moins d'éléments différents un peu perturbés. C'est ce qu'on appelle maximiser sa fenêtre. Hein, maximiser. On peut aussi les réduire. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois déjà. On peut réduire à contrario. Donc maximiser, c'est pour la mettre en plein écran. Et puis la réduire, bah, c'est pour en faire juste un petit bouton qui va se retrouver en bas, donc sur le tableau de bord, ou dans la barre des tâches si vous êtes sur Windows, et bah du coup, ça permet de ne pas fermer définitivement la fenêtre, mais de l'avoir quelque part pour pouvoir y réaccéder, et ensuite réouvrir le programme qu'on était en train d'ouvrir. Alors, on a quatre types de fenêtres qui existent, celles qui concernent les applications, celles des documents, les boîtes de dialogue, et les boîtes de messages. Alors, ben, c'est ce qu'on va regarder respectivement, évidemment. Donc, si par exemple, on s'intéresse aux fenêtres d'application, bah oui, une application, c'est un programme. Hein. Comme vous le savez, ça vaut aussi pour les téléphones et pour tout autre type de trucs qu'on utilise dans son ordinateur. Et un programme, ça s'ouvre dans des fenêtres qu'on appelle des fenêtres d'application. Donc, par exemple, quand on lance le traitement de texte, bah, Writer, LibreOffice Writer, il va s'ouvrir à l'intérieur de l'écran dans une fenêtre d'application. Donc, il y a l'application tout entière et autour des bordures pour marquer. Et puis, à côté de la bordure, on voit d'ailleurs les barres qui sont à côté. Bah, c'est celle où on retrouve l'heure. On retrouve de l'autre côté la petite barre tout en bas. On retrouve les possibilités qu'on disait de changer d'espace de travail, des choses comme ça. Donc, on voit bien qu'autour de la fenêtre, autour du cadre principal, il y a d'autres éléments. Alors, dans la fenêtre d'application, qu'est-ce qu'on a ? On a une barre de titre qui est horizontale et qui est tout en haut. D'accord ? Cette barre de titre, bah, elle indique évidemment le nom de l'application active, ainsi que le nom du document dans lequel vous travaillez. Sachant qu'on peut le lire automatiquement avec Orca, puisque Orca dispose d'une commande qui est insertion entrée du pavé numérique et qui vous lit le titre de la fenêtre courante. La fenêtre d'application, elle est aussi dotée d'une case de menu système, hein, qui est située en fait à son extrémité gauche, ou plus exactement à l'extrémité gauche de la barre de titre. Cette case, en fait, elle est accessible également aux non-voyants par le clavier. Hein. C'est ce qu'on peut ouvrir en appuyant sur Alt, qu'on maintient enfoncé, et ensuite on tape Espace. Et quand on fait ça, bah, ça ouvre en fait un petit menu hein, qui s'appelle le menu système et qui offre des options pour gérer la fenêtre. Et parmi ces options, on retrouve maximiser, fermer ou réduire la fenêtre, qui sont aussi des boutons qu'on retrouve visuellement à droite de cette barre qui est tout en haut. On y reviendra. On va juste noter pour l'instant que Alt Espace permet du coup d'ouvrir ce menu pour pouvoir appliquer quelques manipulations à la fenêtre. Ce que je disais évidemment, c'est que tout à droite, on a trois boutons, lesquels représentent le bouton pour réduire, qui est représenté par un signe moins. On a le bouton restaurer, qui est représenté par une petite fenêtre et qui permet en fait de redimensionner la fenêtre. Et la croix, qui permet du coup de fermer la fenêtre. Donc ces boutons, comme on disait, ils sont remplacés par des raccourcis clavier quand on n'a pas la possibilité de les lire. Donc ils sont essentiellement pratiques quand on sait utiliser la souris. En dessous de tout ça, on a une barre de menu, qui est donc sous la barre de titre, comme on le disait, et qui indique chaque menu disponible pour une application. Alors la barre de menu, bah, c'est pratique parce que c'est ce qui permet d'effectuer des tâches. Hein. On aura l'occasion d'y revenir. Et sachez que, du coup, dans la barre de menu, hein, on a à peu près une dizaine de titres hein, de menus en fonction de l'application. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Mais si on prend celle, par exemple, du traitement de texte, on en a à peu près une dizaine. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc voilà un petit peu ce qu'on a dans une fenêtre d'application. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous reviendrons aussi, mais les deux barres les plus importantes, c'est celle-là et c'est celle qu'on décrit aujourd'hui. Et après, il y a la fenêtre de document. Alors, les données qu'on est en train de créer, donc quand on est écrit hein, typiquement, ou quand on fait des tableurs, ou quand on fait des feuilles de calcul ou des choses comme ça, bah, elles apparaissent dans des documents, et chaque document est disposé dans une fenêtre de document. Et la fenêtre de document, évidemment, elle apparaît toujours dans le cadre d'une fenêtre d'application, c'est-à-dire qu'il y a la fenêtre d'application et à l'intérieur la fenêtre de document. Donc en fait, c'est des fenêtres jumelées, hein, très clairement, on peut le dire comme ça. Et une fenêtre de document se crée quand on ouvre une application, et lorsqu'on crée un document nouveau ou tout simplement quand on ouvre un document existant. Donc si on lance typiquement l'application du traitement de texte Writer, bah, on a une fenêtre de document vierge qui va s'ouvrir par défaut à l'intérieur de la fenêtre d'application de LibreOffice Writer. Et du coup, dans ce cas-là, bah, le document, c'est une page blanche Et évidemment, dans la page blanche, on a le curseur d'écriture qui se trouve dans le coin supérieur à gauche. Et on a toujours le nom du document qui, lui, il apparaît évidemment dans la barre de titre de la fenêtre d'application. Et on a en dessous, bah, comme d'habitude, la barre de menu, etc. etc. Alors, la barre de menu, comme vous le savez, hein, elle permet justement aussi de gérer la fenêtre de document, hein, puisque c'est elle qui va justement permettre de modifier ce qu'il y a à l'intérieur du document et on va pouvoir visualiser le résultat en direct. On va se rappeler d'ailleurs que cette barre, bah, elle est juste en dessous de la barre de titre et au-dessus de la fenêtre de document. Alors bon, bah voilà, après on peut parcourir ça à l'infini et tout le monde peut regarder et on peut du coup s'intéresser maintenant aux boîtes de dialogue. Alors les boîtes de dialogue, c'est un autre type de fenêtre dans Mathé qui occupe une partie de la surface de l'écran plus restreinte. Alors pour le coup, là, c'est particulier parce que leurs dimensions sont fixes et il n'est pas possible de les agrandir ou de les réduire, contrairement aux fenêtres d'application ou de documents. Une boîte de dialogue, en général, elle apparaît à la suite d'une commande. Quand, par exemple, on doit fournir des informations complémentaires, bah, l'ordinateur nous le demande à travers une boîte qui nous permet de dialoguer avec lui. Donc, quand on enregistre un document, pour la première fois, par exemple, bah, une boîte de dialogue va apparaître pour nous demander des précisions, pour savoir, par exemple, où on veut enregistrer le document et le titre qu'on veut lui donner. Alors, du coup, c'est des petites fenêtres qui apparaissent à l'intérieur de la fenêtre d'application et qui sont même plus petites que la fenêtre du document. Alors, dans ces fenêtres, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve une barre de titre pour avoir le nom de la boîte de dialogue. Et puis, en bas, on retrouve, ou plutôt tout à droite, un petit bouton fermé qui représente une croix et qui permet précisément d'annuler les opérations en cours. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de dialogue ? Bah, alors, évidemment, ça dépend de ce qu'on fait, hein. Donc, il y a plein de cases à cocher, on y reviendra. Il y a des listes, il y a des zones de saisie pour pouvoir écrire du texte quand on doit donner quelques informations. Dans certaines boîtes de dialogue, on a des fiches superposées, hein, en fait, c'est ce qu'on appelle des onglets. Donc, les options, bah, elles sont réparties dans des fiches qui sont empilées les unes sur les autres, hein, comme on a vu tout à l'heure. Sauf que là, bah, du coup, c'est structuré comme ça. C'est tout simplement des voilà, il suffit d'utiliser un raccourci pour faire passer par-dessus la pile une des feuilles et ça permet du coup d'accéder à toutes les options de la boîte de dialogue. Et d'ailleurs, visuellement, bah, sur chaque fiche, on a un onglet qui permet précisément de sélectionner la fiche en question. Et pour passer d'une fiche à l'autre, bah, on peut utiliser par exemple le raccourci CTRL tabulation. Donc pareil, on appuie sur la touche CTRL qu'on maintient enfoncé, on appuie sur tabulation. Et quand on est content, on lâche tout. Pour aller dans l'autre sens, puisqu'évidemment, on va essayer de tourner les pages et de pas forcément tout le temps aller dans un seul sens si on s'est trompé, si on a raté l'onglet qu'on cherchait, on va taper CTRL majuscule tabulation. On maintient CTRL, on maintient majuscule, on appuie sur tabulation et on lâche tout. On peut aussi, pour faire tourner les pages, hein, quand on a une boîte de dialogue comme ça qui a plusieurs fiches, on peut se positionner sur le titre de l'onglet avec tabulation, et majuscule tabulation qui permet d'aller dans l'autre sens, on y reviendra, et on peut, avec les flèches de direction, changer d'onglet, tout simplement. Là encore, hein, si vous faites insertion entrée, vous avez Orca qui vous dit le titre de la boîte de dialogue. Et puis enfin, bah évidemment, dans la boîte de dialogue, tout en bas, on a des boutons pour confirmer les opérations, pour annuler les opérations, voire même pour obtenir de l'aide. Ces boutons, ils sont soit côte à côte, en bas de la boîte de dialogue, soit l'un au-dessus de l'autre, dans la partie droite de la boîte de dialogue. Ça dépend de comment le concepteur a imaginé les choses. Dans la boîte de dialogue, c'est la touche tabulation qui permet de passer d'un élément à l'autre dans un sens donné. Et ça, c'est aussi la façon dont on a d'accéder aux différents éléments. Lorsqu'on sélectionne le bouton OK, qui parfois s'appelle aussi valider, ou le bouton annuler d'ailleurs, si on ne veut pas aller jusqu'au bout, bah, la boîte de dialogue disparaît. Alors, pour annuler une opération, on peut d'ailleurs faire beaucoup plus simple en appuyant tout simplement sur la touche échappe qui permet d'éviter de se lancer dans la recherche des boutons. Autre concept, la boîte de messages. Alors ça ressemble beaucoup à une boîte de dialogue, même si c'est pas la même chose d'un point de vue technique. C'est une petite fenêtre, c'est beaucoup plus petit normalement et ça apparaît au besoin pour vous donner des informations. Alors si par exemple on essaye de quitter le traitement de texte sans avoir enregistré le document, on va avoir une boîte de messages qui va nous donner l'information et qui tout en bas va vous dire, bah voilà, est-ce que vous souhaitez enregistrer le document ou annuler l'action que vous êtes en train de faire ou tout simplement sortir sans enregistrer. Et les boutons qui permettent de décider se trouvent tout en bas.
Depuis plus d'une décennie, Edencast se consacre invariablement à promouvoir l'autonomie des déficients visuels à travers la mise en valeur des aides techniques grand public. Pour rejoindre l'aventure, rendez-vous sur edencast.fr.
Autre type de choses qu'on peut explorer, et là c'est un peu plus large, on sort du contexte des fenêtres d'application, c'est le menu principal. Alors, la notion de menu, là, elle est extrêmement importante, pour le coup. C'est une notion très très importante, et on va commencer du coup par celui principal, du coup, qui est celui qu'on a sur le bureau, en haut, à gauche, qui commence par application, emplacement et système. En fait, il y a différents types de menus, Il y a le menu principal, ça c'est le menu dont on vient de parler. Il y a les menus d'application et enfin les menus contextuels. Alors quand on sélectionne les menus, eh bien il y a des listes de commandes qui apparaissent. Et donc il suffit de choisir une commande dans un menu qui est ouvert, ce qui exécute la commande et qui referme le menu. Le menu principal par exemple, on peut l'ouvrir de n'importe où sur l'ordinateur en appuyant sur les touches Alt F1. Même idée. On maintient Alt enfoncé, on tape F1 et on lâche tout. Et puis après, il y a un bouton sur le bar tableau de bord qui est en haut, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec le bouton menu principal. Pareil, on clique dessus, ça ouvre ce menu. Ce menu, il contient certaines commandes qui permettent d'ouvrir un deuxième menu. Alors, visuellement, en fait, c'est un autre menu qui va s'afficher à côté du menu principal. Et puis, il y a d'autres commandes aussi qui permettent du coup d'ouvrir un troisième. En fait, on appelle ça un affichage en cascade. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur la petite flèche qui est à côté du menu, eh bien, ça va en ouvrir un autre, légèrement décalé, et ainsi de suite, tant qu'il y a des sous-menus. Même chose, c'est qu'on peut le faire au clavier, ça avec les flèches de direction, on ouvre un sous-menu avec la touche entrée ou avec la flèche droite. Du coup, les commandes dans ce contexte-là, donc pour le menu application par exemple, donc là on a vu, il y a accessoires, accès universel, autres, bureau, éducation, graphisme, internet, outils système, son et vidéo, à chaque fois il y a un petit triangle en fait qui est à côté de ces commandes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un sous-menu. Et donc on clique sur le triangle pour faire apparaître le sous-menu, ou bien au clavier on sélectionne la commande avec les flèches de direction et on tape entrée pour ouvrir le sous-menu. Certaines commandes, d'ailleurs, sont suivies aussi de trois petits points. Autant visuellement que d'un point de vue sonore, il y a trois petits points de suspension. Quand on voit ces points, ça veut dire que la commande fera apparaître une boîte de dialogue avec des options que vous devrez sélectionner avant de pouvoir exécuter la commande. On en reparlera évidemment, rassurez-vous, mais ça donne un petit peu quelques bases. Alors, dans ce contexte-là, on a effectivement le menu principal. C'est un premier exemple de menu sur lequel on peut s'attarder. Et on peut aussi s'attarder sur le menu d'application. Même concept, ça se déroule quand on active un élément de la barre de menu qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, on va se rappeler que dans une fenêtre d'application, la barre de menu, elle est toujours sous la barre de titre, et elle propose un nom pour chaque menu. Ces noms, ils sont alignés de gauche à droite sur la barre, et quand on décide de sélectionner un de ces noms, et bien le menu se déroule. Alors dans le menu, on retrouve quoi ? Des commandes pour effectuer évidemment des tâches, et la présentation, elle est un peu la même chose, avec les croix, les petites flèches pour ouvrir les sous-menus, ou des points de suspension quand ça va ouvrir une boîte de dialogue. Le menu principal qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il contient par exemple trois menus lui-même. Il contient application, emplacement et système. C'est un peu le même concept en fait, c'est un menu comme les autres, et donc du coup, quand on fait Alt F1 pour l'ouvrir, pour s'y déplacer, on va de gauche à droite, tout simplement, et on ouvre les menus avec la flèche bas. Comme dans la majorité des applications de Mate, le premier menu sur une barre de menu classique, alors là on n'est plus sur le menu principal, on est plutôt sur le menu d'une application comme Writer, généralement le premier menu qu'on a à gauche c'est Fichier, et le dernier menu qu'on a à droite c'est Aide. Classiquement, c'est souvent comme ça que ça se passe, à part dans le menu principal, mais sinon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, pour rentrer dans une barre de menu, ça peut se faire au clavier, bien sûr, avec la touche F10. Sous Windows, on utilise plutôt Alt, mais sous Mate, F10 est beaucoup plus fiable et marche dans tous les contextes, même si Alt est potentiellement utilisable. Et une fois qu'on est dans la barre de menu avec F10, les flèches gauche et droite permettent de choisir les menus, et quand on rentre à l'intérieur, on le fait avec la flèche bas pour y accéder. Une autre façon d'ouvrir un menu, c'est également de maintenir la touche Alt enfoncée et on appuie sur le caractère qui est souligné dans le nom du menu. Pour fichier, on va par exemple maintenir Alt et taper la lettre F parce que c'est elle qui est soulignée. Pour dérouler le menu fichier, du coup, on peut faire soit avec F10, soit en tapant Alt F et ça fonctionne. Et une fois qu'on est dans le menu, comme je vous le disais, on utilise les petites flèches pour descendre et évidemment taper Entrée quand on est sur la bonne commande. À l'intérieur d'un sous-menu, alors il y a plusieurs façons de faire aussi, parce qu'il faut savoir que quand on veut sortir d'un sous-menu, si on s'est trompé, on peut aussi en sortir en utilisant la flèche gauche, parce que si on fait échappe, ça va refermer le menu. Donc la flèche gauche, elle permet de sortir d'un sous-menu sans nécessairement refermer l'ensemble du menu et nous demander de tout recommencer. On remarquera aussi qu'à côté de certaines commandes, on a des touches de raccourci. Alors ça, c'est extrêmement pratique, les touches de raccourci, quand on a de la mémoire, parce que ça permet tout simplement de passer plusieurs commandes qui sont disponibles dans le menu sans même chercher à les ouvrir. Et ces touches, en général, elles commencent par la touche CTRL suivie d'une lettre du clavier. Et on les a en général indiquées à côté du menu après le nom. Alors si je prends l'exemple de la commande enregistrée, on va taper la touche CTRL qu'on maintient enfoncée et la lettre S comme sauvegarder pour accéder à la commande enregistrée du menu fichier. Ce qui là encore est extrêmement pratique. A noter que quand on est sur une commande et qu'on appuie deux fois sur la touche Entrée rapidement, sur le pavé numérique, on obtient Orca qui nous lit tout simplement le détail de la commande, c'est-à-dire non seulement la lettre qui est soulignée, le nom de la commande et éventuellement même le raccourci clavier. Et puis enfin, il y a le menu contextuel. Le menu contextuel qui est le troisième type de menu de Mathé. Ce menu, il peut apparaître à différents endroits de l'écran et le contenu varie évidemment en fonction du contexte, puisque c'est pour ça qu'il s'appelle menu contextuel. Évidemment, il a des commandes différentes selon à quel endroit on le sollicite. Si par exemple, on est dans une fenêtre de documents et qu'on le sollicite, eh bien on va retrouver des commandes liées à la saisie. On peut l'utiliser là encore, comment on y va au clavier ? Soit on fait un clic droit, ça c'est pas au clavier d'ailleurs, c'est à la souris. Comment on y va à la souris ? On y va avec un clic droit et au clavier, il y a une touche sur certains ordinateurs qui permet normalement d'y accéder. Et si cette touche n'existe pas, reste un autre raccourci qui est majuscule F10. Donc on maintient majuscule enfoncé et on tape F10. Et ça permet d'accéder au menu contextuel de l'élément graphique sur lequel on se situe. Ça permet là encore parfois de faire des choses très pratiques pour faire du copier-coller ou des choses comme ça. On verra que c'est des choses extrêmement précieuses. Et la touche menu, pour votre information, généralement, elle se trouve à gauche de la touche CTRL droit, donc non loin des flèches de direction. Et en général, il y a la flèche gauche, le CTRL droit et la petite touche du menu contextuel quand elle existe. Et donc le fameux clic droit à la souris, ne pas hésiter à l'utiliser si vous êtes malvoyant, ça peut être extrêmement pratique. Échappe, ça permet évidemment de sortir, ne l'oubliez pas. Toujours, quand on est dans des boîtes de dialogue, dans des boîtes de messages, dans des menus contextuels ou des menus, échappe, ça permet toujours de sortir. Et bien voilà, on s'arrête là pour les éléments graphiques de Mathé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours dans les commentaires sur ce que vous ont apporté potentiellement ces petits podcasts et s'ils vous ont été utiles et ou s'ils ont manqué de clarté. Je me ferai un plaisir de répondre aux choses qui n'ont pas été claires. Vous pouvez aussi retourner au livre, pouvoir accéder et utiliser Mathé, qui malgré tout est un peu plus clair aussi parce qu'il est écrit et qu'il est du coup plus posé forcément que ce que j'essaye de faire à l'oral. Donc n'hésitez pas à vous reporter aussi à ce document. Et puis moi, je me fais un plaisir de vous retrouver pour le prochain podcast où on abordera les propriétés d'affichage de Mathé. Excellente continuation à tous et à très bientôt.